Bonjour, bienvenue à une nouvelle chronique de la santé, je vais bien et vous? Aujourd'hui, nous recevons le professeur Pavlovski, chef du service de virologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Bonjour à tous, bonjour professeur.
Bonjour.
Alors professeur, nous n'avons pas fait le point de la situation Covid depuis plusieurs semaines et beaucoup de choses se sont passées depuis. Pouvez-vous donc commencer par ce rituel qu'est ce point hebdomadaire?
Bah écoutez, depuis quelques semaines, nous avons essuyé ce qu'on a appelé la troisième vague épidémique. Alors, est-ce que c'est une vraie vague épidémique? C'est un petit peu particulier puisqu'on n'est jamais redescendu à un taux très bas après la deuxième vague de la fin de l'année 2020. On est resté en plateau haut et puis on a eu une augmentation progressive qui a amené cette troisième vague avec un pic à peu près à la mi-avril. Et puis on a l'impression que cette vague est passée, mais on reste sur un plateau haut qui est lentement descendant à l'échelon national et également en Île-de-France. Donc on a eu du travail.
Justement, en parlant de pics en région parisienne ou en Île-de-France, le Val-d'Oise, je crois, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis reste quand même très élevé, à plus de 400. L'incidence est de plus de 400 malades pour 100 000 habitants.
Alors oui, ce que je disais tout à l'heure est vrai, nous sommes en décroissance, mais c'est une décroissance qui est très lente et qui reste quand même avec des chiffres élevés, et puis bien sûr une dissociation entre les différents territoires avec des chiffres qui ne sont pas les mêmes en fonction des endroits dans la région parisienne, mais également à l'échelon national.
Alors professeur, je voudrais surtout revenir sur les variants, puisque au départ on avait juste une souche de Covid, puis plusieurs variants sont apparus. On a eu le variant anglais, on a eu le variant Mondor, on a eu le variant breton, et surtout maintenant on entend parler bien sûr du variant indien. Alors comment démêler toutes ces informations qu'on, pour nous c'est un peu plus public, sans aucune formation scientifique, ça commence à devenir un peu compliqué, et surtout qu'on nous dit maintenant que le variant indien a deux mutations.
Oui, alors le variant indien a deux mutations d'intérêt dans la protéine spike, mais c'est loin d'être le seul, et tous les variants ont de nombreuses mutations dont on parle pas forcément, et certains en ont encore plus que deux dans la protéine spike. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir par rapport à ce nombre de mutations. Je crois que c'est compliqué, effectivement c'est compliqué, en même temps pour nous virologues, ce qui est en train de se passer est parfaitement naturel. Au bout d'un certain temps, le virus commence à avoir un petit peu de résistance à sa propagation qui est liée à l'immunité naturelle et aussi maintenant à l'immunité induite par la vaccination. Et donc des variants sont sélectionnés. Ça n'a rien d'extraordinaire et je trouve dommage qu'à chaque fois qu'un nouveau variant est identifié, on lance une alerte générale qui risque d'inquiéter la population. Je crois que ce qui est important, c'est de montrer qu'on est capable de détecter de nouveaux variants s'ils sont là. C'était le message qu'on avait envoyé quand on avait identifié le variant Henri Mondor. On avait dit pas de panique, c'est un variant minoritaire, mais vous voyez, si des variants viennent sur le territoire national, nous avons la capacité de les identifier. Après, ce qui se passe aujourd'hui sur le plan épidémiologique, c'est qu'après la souche initiale de virus qui a circulé pendant une grande partie de l'année 2020, on a eu un remplacement massif par un variant qui est en train d'étouffer tous les autres, qui est le variant anglais. Alors ça ne veut pas dire que ce variant anglais va rester majoritaire ad vitam aeternam, mais pour l'instant, on a le variant anglais qui représente plus de 90% des souches, qui est en train d'acquérir quelques mutations supplémentaires, ce qui est normal également, puisqu'il évolue à son tour. Et puis les 10% restants se déploie comme ça sur tout un tas de souches qui pour l'instant sont minoritaires. Est-ce qu'elles le resteront? Je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est la situation et donc le variant sud-africain, il augmente un petit peu mais il reste minoritaire. Le variant brésilien, il est très minoritaire, on est à 0,2-0,3%. Le variant Henri Mondor, on est autour de 1% sur la dernière enquête flash. Le variant breton, il y a eu une quarantaine de cas mais on ne le détecte plus. Ben voilà, donc on est quand même dans un tableau où il ne faut pas avoir peur, chaque matin, de se retrouver envahi par un nouveau variant. Le variant indien, il est fréquent en Inde parce qu'il y a une poussée épidémique importante là-bas. Il n'est pas présent dans toute l'Inde. La majorité des patients indiens qui sont infectés aujourd'hui sont infectés par un virus anglais, un variant anglais. Ce variant indien, il est présent dans l'ouest du pays. Et évidemment, on a quelques cas qui sont des cas d'importation en Europe, mais pour l'instant, pas d'inquiétude spécifique pour une diffusion massive de ce variant sur le territoire national.
Alors, professeur Pavlovski, je vais vous demander un peu de voyance. Donc, nous avons commencé notre déconfinement. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attestation pour le déplacement. Le déconfinement va avoir lieu progressivement. Alors, quand je parlais de voyance, c'est professeur, allons-nous avoir des vacances cet été ?
Alors ça, la voyance, moi, vous savez, je suis un scientifique. Donc la prévision ou la prédiction, je ne la fais pas. Il y a différents modèles qui valent ce qu'ils valent. J'espère bien qu'on aura des vacances cet été parce qu'on en a tous besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation, elle est sous la dépendance de très nombreux paramètres. Donc le confinement, ou plus exactement les mesures de freinage, parce que ce qu'on vient de vivre n'était pas un vrai confinement, mais en tout cas les mesures de freinage sont un élément de l'équation. Mais il y a bien d'autres éléments de l'équation. Il y a ce que les Français vont faire pour continuer à se protéger derrière. Donc ça, ce sont des événements comportementaux. Il y a l'évolution de la saison également, dont on sait qu'elle joue un rôle important et qui peut être un rôle bénéfique avec le passage vers un printemps plus avancé, puis vers l'été. Il y a l'exposition naturelle. Il y a déjà pas mal de monde qui ont fait l'infection au cours des trois phases successives. Donc, il y a déjà un certain niveau d'immunité collective. Et puis, évidemment, il y a la vaccination. Et on a vu que la vaccination commençait à avoir un effet tout à fait majeur sur les populations qui y ont eu accès, avec une diminution du nombre de cas et surtout une diminution du nombre de formes sévères. Donc, tous ces paramètres-là, dont on n'a pas forcément au jour d'aujourd'hui la maîtrise, vont se combiner pour résulter dans la situation qui sera celle des prochains mois. Donc je pense qu'on peut quand même être raisonnablement optimiste. Bien sûr, il peut y avoir des imprévus, mais la combinaison de ces paramètres devrait nous permettre de rentrer dans une situation qui ne sera pas la disparition du Covid, la fin de l'histoire, mais qui sera une situation plus facile à gérer sans doute et un petit peu plus normale.
Alors justement, vous venez de parler aussi de la vaccination qui maintenant a beaucoup d'importance donc dans la diminution des cas de Covid. Cette vaccination prend beaucoup d'essor puisque les personnes qui étaient réticentes au départ, beaucoup maintenant se font vacciner. On voit que maintenant elle est ouverte donc aux personnes de plus de 18 ans avec comorbidité, il me semble. Mais à ce rythme-là, on peut peut-être espérer que pour l'été, l'immunité de groupe soit installée en France.
Oui, absolument, et c'est même probable. Aujourd'hui, il y a eu au tout début des petits problèmes d'approvisionnement, mais qui étaient normaux. On ne peut pas comme ça produire des milliards de doses de vaccins en 10 minutes, ça demande de l'organisation. Aujourd'hui, les doses arrivent, la vaccination fonctionne, même s'il y a pu y avoir ici ou là quelques ratés. Donc je pense qu'on va réussir à atteindre un taux d'immunité collective qui sera suffisant certainement d'ici la fin de l'été. Il faut bien rappeler à tout le monde aujourd'hui que s'il y a encore des gens qui pensent que la vaccination n'est pas utile ou est dangereuse, c'est la seule option que nous avons. Les vaccins sont très efficaces, les vaccins sont très bien tolérés et les personnes vont être, dans le cadre d'une pandémie mondiale, devant deux éventualités. La première, c'est qu'ils seront vaccinés et donc protégés contre les maladies graves. La deuxième, c'est que s'ils ne sont pas vaccinés, la probabilité qu'ils fassent le Covid est extrêmement élevée. Et bien sûr, s'ils sont à risque, mais on sait aussi qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de risque apparent, qui peuvent faire la maladie sévère, eh bien, ils peuvent mourir de cela sans vaccin. La pandémie aboutirait au fait que l'intégralité de l'humanité finirait, au bout de quelques années, par avoir été infectée par le virus Covid, avec les conséquences qu'on peut imaginer.
Alors j'ai aussi une interrogation qui m'interpelle. Les premières personnes qui ont été vaccinées début janvier vont peut-être être amenées à être revaccinées à partir du mois d'août.
Alors revaccinées à partir du mois d'août, je ne pense pas qu'il y ait de signaux dans cette direction. Moi j'en fais partie. Hein.
Oui.
C'est les soignants de plus de 50 ans, je crois, qui étaient vaccinés tout début janvier. Aujourd'hui, la protection, elle tient et elle tient bien. Peut-être faudra-t-il revacciner tout le monde à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'informations qui indiquent qu'il y a une urgence à revacciner dès le mois d'août, ce qui serait extrêmement tôt.
Bah écoutez, professeur Pavlovski, je vous remercie de votre disponibilité et nous nous retrouverons bientôt.
À bientôt.
C'était notre chronique de la santé, je vais bien et vous. Nous avons reçu le professeur Pavlovski, chef du service de virologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Quant à nous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.